Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ces chroniques de la vieille Europe. Autour de moi, toujours nos fidèles chroniqueurs, Lucien Valdès. Bonsoir, Lucien.
Bonsoir.
Et Philippe Christel. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir, Patrick. Bonsoir aux auditeurs.
Alors, avant de commencer de vous donner notre sommaire, vous avez été nombreux à nous avoir félicités pour notre émission sur Maurras et sur la qualité de nos deux invités. Et nombreux à réécouter l'émission sur vieilleeurope.fr. Donc merci aussi à certains blogs, en règle générale royalistes, d'avoir fait le lien sur notre site. Ce qui prouve que Maurras passionne toujours nos concitoyens français, à ma grande surprise, je l'avoue. Je signale aussi aux auditeurs que nous avons mis en ligne une ancienne émission que nous avions faite avec Dominique Vénère sur son livre Le siècle de 1914, qui réjouira, j'en suis sûr, nos fidèles internautes. Pour ce soir, une émission riche en actualité. D'ici quelques minutes, nous aurons par téléphone Sophie Cassard, historienne, qui vient de sortir aux éditions Tempora la Pologne géopolitique du Phénix de l'Europe. Je dis Tempora, mais je crois que je me suis trompé. C'est Artege, pardon. Aux éditions Artege, la Pologne géopolitique du Phénix de l'Europe. Elle sera interrogée par Lucien Valdès. Dans une deuxième partie, nous reviendrons dans l'actualité polonaise en discutant avec Lucien Valdès et Philippe Christel sur les conséquences et les commentaires qui ont été faits sur le drame du président polonais. Et nous aurons aussi par téléphone un nouveau chroniqueur, Louis de Gog, qui nous fera une revue de presse sur la chose militaire. C'est nouveau, c'est Lucien Valdès qui nous a concocté ça et j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, une troisième partie, la plus classique, la plus célèbre, l'actualité en Europe vue par Philippe Christel. Donc, nous allons commencer par la Pologne qui vient effectivement d'avoir un drame national. Et il paraissait important, avant de revenir sur l'événement et ses conséquences, de faire un historique de ce grand pays européen, coincé entre l'Allemagne et la Russie, peu épargné par les conflits tragiques du XXe siècle, et cherchant depuis la chute du mur une position géopolitique sur la scène européenne. Irritant souvent ses partenaires, elle ne laisse pas indifférente, car elle fait partie de ces grands peuples d'Europe. Nous allons savoir de suite si nous avons Sophie Cassard au téléphone. Sophie Cassard, m'entendez-vous ?
Tout à fait, bonsoir.
Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser dans les mains de Lucien Valdès qui va présenter votre livre et vous poser sa première question. Lucien Valdès, c'est à vous.
Alors, d'abord, je vais rappeler aux auditeurs le titre du livre que vous avez écrit, Sophie Cassard, « La Pologne géopolitique du Phénix de l'Europe ». Donc, c'est paru aux éditions Artege. Vous êtes professeur certifié donc d'histoire-géographie, diplômé de Paris-Sorbonne, et donc voilà, les présentations sont faites, et je vais poser donc ma première question. Avec un bonheur d'expression évident, vous avez intitulé votre ouvrage « Pologne géopolitique du Phénix de l'Europe ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire nous en dire un peu plus sur ce phénix polonais ?
Alors, pourquoi ai-je choisi le terme de phénix ? Peut-être connaissez-vous cet oiseau mythologique, une sorte d'aigle rouge, l'aigle qui est le symbole de la Pologne, rouge sa couleur, mais surtout cet oiseau mythologique a le pouvoir de renaître de ses cendres. Cela fait évidemment allusion à différents événements de l'histoire polonaise qui a connu de nombreux épisodes tragiques. Et certaines de ces tragédies ont mené à la disparition de son territoire, ou à l'asservissement de son peuple. Je fais particulièrement allusion à cette disparition de plus de 100 ans, de 1795 à 1919, donc entre la fin du XVIIIe siècle et le lendemain de la Première Guerre mondiale. Quant à l'asservissement du peuple polonais, on peut penser non seulement à l'occupation allemande de 1939 à 1945, mais surtout à la mise sous tutelle soviétique, qui a muselé les Polonais jusqu'à la fin des années 80. Et malgré tous ces événements, et pendant ces périodes noires, le peuple polonais n'a jamais disparu. Il a réussi à entretenir son identité, à entretenir sa mémoire, il a organisé sa résistance et, en fait, sa renaissance. C'est à cause de cette capacité à rebondir sur ces tragédies que le terme de phénix me permet de caractériser la Pologne. Et là, avec l'événement qui vient d'arriver, on va encore espérer que la Pologne va renaître des cendres du drame de Smolensk.
Alors effectivement, impossible de passer sous silence la terrible tragédie de Smolensk, vous l'avez dit, dans laquelle, je le rappelle, a péri le président Lech Kaczynski, le président en exercice, et avec lui une partie de l'élite polonaise. Une tragédie qui a indubitablement contribué à rassembler me semble-t-il, les deux nations slaves, la Pologne et la Russie, on l'a vu grâce aux émissions de télévision et aux retransmissions des obsèques. Que pensez-vous de ce rapprochement ?
Alors, ce rapprochement, tout l'enjeu est de savoir s'il est superficiel ou profond et réel. Est-ce qu'il est juste visible à la télévision pendant l'espace de quelques funérailles, ou est-ce qu'il va avoir des conséquences par la suite? Il faut dire que ce drame a eu lieu autour de l'événement de Katyn.
Bien sûr.
On peut rappeler donc que cet accident avait pour toile de fond les cérémonies liées à la reconnaissance de l'affaire de Katyn par les autorités russes. Et cette affaire qui avait quand même conduit à l'assassinat de 20 000 Polonais qui constituaient l'élite administrative et militaire en 1940. Donc ce drame, ce crime a été nié par les soviétiques pendant 50 ans, jusque dans les débuts des années 90, où Boris Yeltsin a ouvert en partie les archives russes, soviétiques plutôt, aux chercheurs, entre autres polonais. Mais l'arrivée de Vladimir Poutine à la tête du pays avait un petit peu fermé ses archives, puisque Vladimir Poutine ne voulait pas faire quelconque mea culpa à propos de ces assassinats. Donc l'accord qui avait été trouvé autour de l'affaire de Katyn était une étape importante dans le rapprochement des deux pays. Ce rapprochement était le fruit de pourparlers entre les élites. Et c'est vrai que ce drame de la mort tragique du président fait que il semblerait que les populations, les opinions, adhèrent à ce rapprochement, qui jusque-là était plus le fait d'élites que de l'opinion proprement dite.
D'accord. Mais parfaitement, parfaitement. Alors, on va peut-être avancer. Il est vrai que les Polonais entretiennent un rapport particulier à leur histoire, puisqu'ils la voient comme une grande tragédie. Hein. Quelles sont les grandes dates, finalement, de cette tragédie polonaise, les grandes dates de l'histoire polonaise ?
Alors, les grandes dates de l'histoire polonaise. C'est une bonne question, car la Pologne, si elle a une ambition géopolitique ou diplomatique, c'est qu'elle s'appuie sur son histoire. Son histoire commence en 966. C'est la date officiellement retenue pour donner la naissance de la Pologne. Elle correspond en fait à la date du baptême d'un prince appelé Mieszko, le prince des Polanes, qui a réussi à réunir les tribus slaves de l'est du fleuve Oder sous sa bannière. Et ce prince Mieszko inaugure ainsi la dynastie des Piastes. Et ce prince, toujours, pour échapper à la pression germanique, qui est déjà présente sur son flanc ouest dès cette fin du Xe siècle, se met sous la tutelle ou la protection directe du pape. Donc on voit que dès sa naissance, la Pologne et le pape sont très liés. Il est aussi intéressant de noter que 1000 ans après cette date de 1966, à savoir 1966, le régime communiste Theta, ce millénaire du baptême du prince Misko, comme étant l'événement fondateur de la naissance de la Pologne. Bon, je ne m'attarderai peut-être pas autant sur chaque date, si
oui.
Vous voulez faire l'histoire polonaise. Qu'est-ce que je peux vous signaler? Peut-être au XIIIe siècle, l'entrée des chevaliers teutoniques dans la région?
Exactement.
Au XIVe siècle, je peux vous signaler le nom de Casimir le Grand, qui est un roi qui a eu un règne assez long et important, puisqu'il a donné des structures politiques à son pays qui étaient dignes de ce qui se passait à l'ouest de l'Europe à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il meurt sans héritier et c'est alors la fin de la dynastie des Piastes qui avait été inaugurée par le prince Misko. Donc maintenant, nous pouvons peut-être signaler une période importante, c'est celle de l'union dynastique entre le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie, puisque sans héritier, le royaume de Pologne finit par un mariage, il y a un mariage entre une petite, une arrière-petite nièce de Casimir le Grand et le grand-duc de Lituanie. Donc, cette alliance commence au XIVe siècle. Elle va durer pendant 4 siècles, mais je dirais que seuls le XVe et XVIe siècle sont des périodes fastes pour cette république dite des deux nations. Et c'est la période de l'expansion maximale du territoire polonais. En effet, la Lituanie d'alors comprend une bonne partie de la Biélorussie et de l'Ukraine de maintenant. Ensuite, une victoire sur les chevaliers teutoniques va permettre de récupérer déjà, pour ainsi dire, la ville de Dantzig et donc d'accéder à une porte importante sur le trafic de la mer Baltique. Et pour continuer, l'extension du territoire se fait également vers le sud, puisque la République des deux nations inclut pendant quelques années la Moldavie et la Valachie, ce qui va lui permettre d'atteindre la mer Noire. On a ainsi une Pologne qui peut, en théorie, contrôler un axe de circulation majeur entre la mer Noire et la mer Baltique. Donc cette expansion maximale, bien sûr, elle fait la fierté des Polonais. Elle nourrit également le ressentiment de ses voisins. Mais certes, cette extension est importante, mais elle ne doit pas cacher la faiblesse de la structure étatique qui va s'affaiblir et ne peut pas contrôler un tel territoire, faute d'un pouvoir central fort. Donc, passons rapidement peut-être sur la suite, à savoir une très longue agonie qui va durer 2 siècles, 17e, 18e siècle, avec toujours des voisins entreprenants qui vont se servir de plus en plus sur le territoire lituano-polonais. Et ce qui va aboutir en 1795 au dépècement complet et à la disparition de la Pologne, qui a été partagée entre 3 de ses voisins, à savoir la Russie de Catherine II, la Prusse et l'Autriche, qui se sont donc ainsi partagés le territoire.
D'accord.
Mais ce n'est que pour 100 ans, 123 ans très exactement, puisque la date que l'on va retenir après, c'est la Première Guerre mondiale, à l'issue de laquelle la Pologne retrouve une place pleine et entière en Europe, grâce en grande partie aux Américains, au président Wilson, qui en avait fait un de ses points importants pour la réorganisation des relations internationales à l'issue du conflit. La France, bien sûr, soutient la renaissance polonaise qui doit se faire sur le dos de l'Allemagne vaincue. Alors, voilà, vraiment très très rapidement.
Non, mais en même temps, on voit les grandes lignes de géopolitique et historique de la Pologne. Je crois qu'après, on va peut-être aborder la seconde partie, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et après 45.
Oui, je vais faire assez rapidement. Je voulais juste vous signaler une figure marquante dans l'entre-deux-guerres avec Joseph Pilsudski,
bien
qui
sûr.
Met en place une république dite musclée. La Seconde Guerre mondiale, bien sûr, voit la tragédie se reproduire, avec de nouveau la disparition de la Pologne en quelques semaines, lorsqu'elle subit la double invasion de ses voisins expansionnistes, l'Allemagne nazie et la Russie soviétique. Et pendant cette Seconde Guerre mondiale, même si Hitler attaque l'URSS à partir de 1941, Staline ne se retire pas pour autant du territoire polonais qu'il occupe. Et les Alliés, d'ailleurs, aussi abandonnent la Pologne à l'armée rouge pour pouvoir bénéficier de cette alliance soviétique contre l'Allemagne nazie. Donc pendant cette Seconde Guerre mondiale, la Pologne est complètement dévastée. 38% de son territoire est détruit. 6 millions de Polonais disparaissent. Et ensuite, nous pouvons donner comme date repère de 1945 à 1988 la satellisation de la Pologne qui se gèle dans le bloc des Républiques populaires. Et pendant cette période, on peut retenir comme date peut-être 1978, l'élection d'un pape polonais, Jean-Paul II, et puis également, au début des années 80, la montée en puissance d'un syndicat libre du nom de Solidarnosc qui sera dirigé alors par Lech Walesa. Et puis la dernière date, puisqu'après la suite
est plus connue,
un peu mieux, c'est juin 1988, en Pologne, ce sont les premières élections libres et la Pologne est le premier pays à organiser des élections libres, le premier pays de l'ex-bloc soviétique à organiser des élections libres. Voilà pour un très rapide tour de l'histoire polonaise.
Synthétique, mais informatif. Vous l'avez dit, nous sommes en 88. La Pologne va être un des premiers, sinon le premier, à intégrer l'OTAN. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs tracer à grands traits les relations entre la Pologne et la Russie ? Est-ce que la Russie a-t-elle été toujours cet ours menaçant, tandis que la Pologne, cette petite nation en sursis ?
Alors oui. La Russie est toujours un ours menaçant. Oui, la Pologne s'est sentie dans les début des années 90 en sursis. Elle n'était pas du tout rassurée par sa situation. Il faut dire que elle a été annexée pendant plus de 100 ans au 19e siècle, en partie par la Russie. Elle a été mise sous tutelle pendant 50 ans au 20e siècle. Donc cela laisse des traces. Et la Pologne est crispée sur le maintien de ses frontières qui lui semblent, en tout cas il y a 20 ans quand elle s'est émancipée, en 1990, ses frontières lui semblaient peu stables, peu sûres. Et sa première démarche diplomatique, ça a été de se prémunir contre son voisin russe en adhérant à l'OTAN, en espérant ainsi obtenir l'aide de la puissante Amérique. Ensuite, d'ailleurs, les rapports polono-russes se sont détériorés depuis 20 ans, depuis les années 90, sur fond de crise russo-américaine. À ce propos, on peut se rappeler du projet du bouclier antimissile que les Américains prévoyaient d'installer sur le territoire polonais, qui inquiétait d'ailleurs la Russie.
À juste titre.
C'était assez frontière, même si l'argument c'était de contrer une attaque nucléaire iranienne. Mais ça ne laissait aucun doute sur les véritables intentions américaines. Outre les rapports russo-américains, la Pologne est au centre d'autres soucis concernant la Russie. C'est la question du gaz russe et de son transit. comme vous le savez sûrement, c'est jusqu'à présent, le gaz russe traverse non seulement le territoire ukrainien, qui fait souvent parler de lui à cette occasion, mais également le territoire polonais avant d'atteindre l'Europe occidentale. Et les problèmes rencontrés avec l'Ukraine poussent la Russie à développer une ligne directe entre elle-même et l'Allemagne. La Russie veut essayer de mettre en place, et d'ailleurs ça semble bien engagé, de mettre en place donc un gazoduc via la mer Baltique. Donc ainsi, le gaz ne passerait ni par le territoire ukrainien, mais également ne passerait plus par le territoire polonais. En évitant les intermédiaires, la Russie espère éviter les problèmes. Mais c'est autant de manque à gagner pour la Pologne. La Pologne qui accuse à cette occasion l'Allemagne de signer un nouvel accord contre nature avec la Russie. C'est, pour la Pologne, c'est vécu comme un nouvel accord Ribbentrop-Molotov. Donc, d'autant plus que l'Allemagne, au sein de l'Union européenne, s'était engagée auprès de la Pologne pour la soutenir dans l'établissement de nouveaux corridors de transit du gaz par son territoire. Donc, voilà, les rapports polono-russes ne sont pas totalement stabilisés. Et par-dessus, donc, cette affaire de Katyn, où on espère voir se cristalliser des rapports plus sereins, moins tendus.
Alors, assez rapidement, peut-être, on va parler de la Pologne, mais dans un contexte plus, disons, plus sur son voisinage proche, finalement. J'aurais aimé avoir votre analyse sur la place de la Pologne dans l'Union européenne et que vous abordiez plus précisément peut-être le problème particulier de l'espace Schengen vu du côté polonais.
Oui, alors la Pologne entre dans l'Union européenne en 2004. Elle fait partie de ces 10 pays qui sont rentrés dans ce qu'on a appelé à l'époque l'élargissement de l'Union européenne. Elle-même d'ailleurs ne parle pas d'élargissement. Il est intéressant de noter que pour la Pologne, mais aussi pour les autres pays de l'ex-bloc soviétique, les autres républiques anciennement populaires, il s'agit d'une réunification. Pour eux, rentrer en Union européenne, c'est être réunifié à une Europe dont on a été coupé artificiellement par le rideau de fer. Cette adhésion à l'Europe, elle s'est faite en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu en 1991 un premier accord avec l'Allemagne et la France, la Pologne, a tenté de se réconcilier, non pas avec son voisin russe, mais cette fois-ci avec son voisin allemand, qui lui faisait tout aussi peur d'ailleurs que la Russie. Donc en 1991, la Pologne, l'Allemagne et la France constituent le triangle dit de Weimar. Le triangle de Weimar, et le but est d'organiser la réconciliation polono germanique sur le même modèle que la réconciliation franco-allemande. L'idée est que si les Français et les Allemands ont réussi à se réconcilier avec le passif qu'ils avaient, nous, les Polonais et les Allemands, devraient essayer également d'aboutir à cette réconciliation. Ça, c'est une première étape avec le prestigieux couple franco-allemand, mais la Pologne a également une démarche locale plus proche de ses voisins, puisque en 91, toujours à cette même date, elle met en place un groupe, le groupe dit de Visegrad, avec la Tchécoslovaquie et la Hongrie, pour organiser un embryon d'union économique régionale, avec des accords de libre-échange entre ces pays, et donc constituer une mini-union européenne au sein de l'Europe centrale et orientale.
D'ailleurs,
et ensuite, donc, elle adhère, elle vote, les Polonais votent massivement à l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne en 2004, mais elle obtient le report de son intégration à l'espace Schengen.
Voilà.
Alors, c'est ce qui vous intéresse.
Exactement.
C'est que pourquoi est-elle assez réticente à cet espace Schengen ? Nous, il nous semble important qu'en entrant en Europe, la Pologne étant la frontière orientale de l'Europe, il nous semble important qu'elle ait les capacités à maintenir une frontière stricte, une frontière qui contrôle correctement les entrées, les sorties, que ce soit des hommes ou des marchandises. Mais pour la Pologne et pour son voisin ukrainien et son voisin biélorusse, c'était un recul. En effet, la fermeture des frontières, c'était retourner avant 1990. C'était très très mal vécu, cette fermeture, cette nouvelle fermeture de frontières, puisque elle impliquait finalement la séparation de nouveau de familles entières qui avaient été déjà séparées par en 1945 avec les frontières imposées par l'Union soviétique. Ces familles s'étaient retrouvées en 1990 et 20 ans plus tard, on leur dit ben non, maintenant vous séparez de nouveau, on remet une frontière. Et c'est vrai que cette frontière Schengen nous paraît très importante vue de l'Ouest, et alors que sur le territoire, ça a été vraiment considéré comme un recul, et pour les Ukrainiens, c'était une trahison de la part des Polonais que de nouveau les mettre à l'extérieur de cette manière.
Alors, Sophie Cassard, c'est quelques-uns donc des thèmes que vous avez abordés dans votre livre, dont je rappelle le titre, La Pologne géopolitique du phénix de l'Europe. Donc, c'est paru dans la collection Initiation à la géopolitique, dont nous avons souvent fait l'écho dans l'émission, paru donc aux éditions Artege.
Formidable. Ben merci à vous, Sophie Cassard. Lucien Valdez vient de rappeler le titre de votre livre. On va faire une petite pause après ce retour historique sur l'histoire de la Pologne, et je pense que c'était important parce que sur la Pologne, on a encore plein de choses à dire. Lucien Valdez et Philippe Christel sont impatients de vous en parler. On va juste faire une petite pause musicale avant de vous entendre. Deuxième partie des chroniques de la Vieille Europe, nous allons revenir sur la Pologne après ce rappel historique de Sophie Cassard. On va revenir sur ce drame national qui a vu les circonstances de ce drame diplomatique. Ça aurait pu être un drame diplomatique. Il y a un siècle, ce genre d'événement aurait pu déclencher une guerre. Donc, je rappelle la mort d'un président polonais sur le sol russe, dans un avion russe, Philippe Christel, je pense
dans un avion polonais de marque russe.
Voilà. Alors, en plus, dans ce cas-là, oui, c'est encore pire. Ça aurait pu, effectivement, il y a une époque, on aurait fait une guerre pour moins que ça.
On va revenir, je pense, sur le traitement de médiatique de Katyn et de la catastrophe de Smolensk, traitement médiatique à la fois chez nous en France, mais également par les Russes. On va y revenir tout à l'heure. Je voudrais compléter la description qu'a faite Sophie Cassard de son livre, que j'ai lu avec attention, et je trouve que son là évidemment on est allé dans les grands traits, mais on a il y a plein d'éléments qui sont tout à fait intéressants à se rappeler sur la Pologne. Déjà Sophie Cassard et la collection Arthej, ce sont des livres de géopolitique, et donc qui dit géopolitique dit géographie, hein. Vous savez que vous connaissez la phrase du chancelier Bismarck qui disait que un pays ne fait jamais que la politique de sa géographie, et donc j'ai trouvé assez intéressant et illustrant, et peut-être également illustrant les conflits de ce dernier siècle. Quand on voit que la géographie humaine de la Pologne est totalement découpée entre les zones fortement à forte infrastructure, fortement industrialisées, qui ont été les zones de l'influence directe allemande, et les zones beaucoup plus rurales qui sont restées les zones totalement slaves. Et je crois qu'il y a deux Polognes dans une Pologne et que c'est tout à fait intéressant. Je crois d'ailleurs que une des raisons qu'on ne souligne pas assez, une des raisons de la grande crainte de la Pologne face à son voisin allemand aujourd'hui et qui est lié à la question des frontières, tient au fait que la frontière polono-allemande d'aujourd'hui, qui est située sur la ligne Oder-Neisse, est une frontière artificielle depuis 60 ans. Et que Sophie Cassard explique très bien que les Russes, au moment de 1945, ont déplacé les frontières orientales et occidentales de la Pologne vers l'ouest, c'est-à-dire que on a déplacé vers l'ouest la frontière entre la Pologne et la Russie pour agrandir le territoire russe, et on a compensé pour faire payer la facture aux Allemands, puisque c'était le moment, en arrachant à l'Allemagne ce que même le traité de Versailles ne lui avait pas arraché, à savoir la Silésie, la Poméranie, le corridor de Danzig, bien évidemment. Et je rappelle que, puisqu'on parle beaucoup du grand martyr polonais, je rappelle que pas loin de 13 millions d'Allemands ont été expulsés dans des conditions totalement cataclysmiques, sous la famine, les menaces, les coups et les persécutions des territoires qu'ils occupaient depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années pour l'ensemble de l'Europe centrale et orientale. Et que donc, aujourd'hui, on le sait, et nous nous en sommes déjà fait l'écho avec la polémique sur la nomination de la députée de CDU, Erika Steinbach, à la tête du mémorial des déplacés en Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, la Pologne s'émeut vivement de toute tentative allemande de faire exister le drame de ces populations, parce que la Pologne sait bien qu'elle n'a pas la conscience tranquille. Je rappelle qu'à l'aune des tribunaux internationaux, puisqu'il existe aujourd'hui maintenant une justice pénale internationale, ce qu'il a été infligé aux Allemands en 1945 est jugé de la même, considéré de la même manière que l'a été l'épuration ethnique des Albanais du Kosovo. Et donc, il y a certes une inquiétude de la Pologne, mais si j'ose dire, parce qu'elle n'a pas la conscience tranquille. Le deuxième sujet, c'est que on insiste souvent, et un auditeur nous en laisse un message pour nous le rappeler, que en 1939, les soviétiques et les nazis étaient alliés pour envahir ensemble et se partager la Pologne. C'est exact. Il faut rappeler également à nos auditeurs, ce que rappelle Sophie Cassard, c'est qu'avant le dépeçage de la Pologne en 1939, il y a eu, nous avons assisté historiquement au dépeçage de la Tchécoslovaquie en 1938. Et que lorsqu'il s'est agi de dépecer la Tchécoslovaquie, bien évidemment l'Allemagne en a pris la plus grosse part, mais dans le silence des nations européennes, la Pologne a participé en s'adjugeant, le district de Teschen, qui est un district à très forte avec un sol plein de charbon et donc stratégique pour l'époque, et qui est situé vraiment à l'extrémité nord-est de ce qu'était la Tchécoslovaquie. Et donc de la même manière, si on reformule que les soviétiques et les nazis étaient alliés pour envahir ensemble et se partager la Pologne, les Polonais et les Allemands étaient ensemble pour se partager les dépouilles de la Tchécoslovaquie. Et donc à un moment donné, à force de... quand on joue à un certain jeu, il faut accepter les règles jusqu'au bout. Et d'ailleurs, un des mérites également de Sophie Cassard est de rappeler les orientations de la politique polonaise de l'entre-deux-guerres. Elle nous a cité la figure tutélaire du vieux maréchal Pilsudski, aux côtés duquel le président Kaczynski vient donc d'être enterré dans la crypte de la cathédrale de Wawel à Cracovie. Mais a suivi quasiment, avec une petite intermède, a suivi Pilsudski, le colonel Beck, qui a été un des dirigeants polonais les plus bellicistes, et qui jusqu'au bout et jusqu'au dernier moment a cru qu'il pourrait provoquer l'Allemagne d'Hitler, fort du soutien, on le sait, de la France qui était prête à mourir pour Danzig, etc., etc. Et donc, il y a une, il ne faut pas, je crois que le recul historique que nous avons aujourd'hui nous permet d'avoir, je dirais, une position plus contrastée entre le petit Polonais qui souffrirait et les grands méchants voisins, qu'ils soient allemands ou russes. Enfin, Sophie Cassard nous décrit, elle a raison, que les Polonais voient comme un affront le fait que les Russes construisent avec les Allemands le corridor Nord Stream pour le passage du gaz. Les Allemands et les Russes construisent simplement un passage qui permet d'éviter un passage en Ukraine, partenaire peu fiable, et en Pologne, partenaire certes fiable, mais onéreux. Enfin, il n'est n'importe qui dans n'importe quelle activité économique aujourd'hui sur Terre cherche à supprimer des intermédiaires coûteux pour assurer la rentabilité et la sécurité de sa production. Il ne faut pas pousser les cris d'orfraie qu'on entend. Et puis, dernier sujet qui me paraissait intéressant avant qu'on évoque Katyn et Smolensk, Sophie Cassard insiste sur une des spécificités de la Pologne qui est la force et la puissance de sa diaspora. Et c'est vrai que si on constate par exemple les forts mouvements d'émigration, qu'on pense à l'émigration irlandaise, à l'émigration italienne aux États-Unis, ces pays-là se sont bien moins structurés, mine de rien, que la diaspora polonaise.
Oui, elle en consacre
un chapitre. Et alors, elle cite un cas que je crois qu'on méconnaît, qui est qu'en 1945, donc il s'agit de reconstruire la Pologne envahie par les Soviétiques, la résistance polonaise, les cadres polonais ont été largement décimés, puisqu'il y a eu Katyn, il y a eu d'autres exécutions, et puis il y a eu la répression terrible du ghetto de Varsovie, de la forteresse de Varsovie, de l'armée secrète, occupée par l'armée secrète polonaise, et donc il n'y a plus de cadres, il n'y a plus d'élite pour reconstruire le territoire, et les communistes russes font appel aux camarades communistes français, polonais, du Nord-Pas-de-Calais principalement, et toute une série de militants communistes convaincus d'origine ou d'ascendance polonaise vont quitter le Nord-Pas-de-Calais pour aller s'installer pour reconstruire l'élite de la Pologne, un des figures les plus emblématiques étant le président Žirek, qui a été donc président dans les dernières, je crois, dans les débuts des années 70. Et donc, ou premier ministre, enfin, quelque chose comme ça. C'est une histoire amusante parce que bien évidemment, assez vite, les camarades d'Anzin ou de Lens, confrontés à la réalité soviétique, ont essayé d'y en échapper les plus nombreux possibles, ce qu'ils ont pu faire dans le mi-temps des années 50-60.
Ben voilà, c'est un bon.
Voilà, c'est pour pondérer et soulever. J'ai toujours un peu tendance à me méfier des grandes martyrologies, des grandes martyrologies qu'on peut construire sur des pays ou des populations. On s'aperçoit que la réalité est quand même beaucoup plus contrastée.
Oui, surtout que la Pologne a une histoire sur. C'est le pays martyr. C'est le Christ des nations. C'est qu'a chanté le poète Adam Mickiewicz. Donc, c'est vrai qu'il y a eu tout un courant poétique nationaliste sur cette question, enfin sur ce martyrologue, quoi, en fait.
Mais je pense que ce que disait Philippe sur la diaspora polonaise est très intéressante parce qu'on retrouve exactement ce même problème, est-ce que c'est un problème, aux États-Unis où la diaspora polonaise est très importante dans une ville comme Chicago et qu'il y a une véritable pression.
C'est toujours la deuxième ville polonaise après Varsovie. Hein.
Oui, certes, mais elle pèse à Chicago moins qu'elle n'a pesé auparavant.
Oui, bien sûr. Oui, d'accord.
C'est dans ce cas-là.
Ce qui explique ces relations avec les États-Unis. Alors, Lucien Valdez, vous allez nous parler toujours de la Pologne. Vous allez nous faire quelques minutes. Sur la presse française qui, elle, est toujours indécrottable et la presse la plus bête du monde.
Oui, c'est un article paru dans Monde et Vie, signé de Pascal Viscontini, qui me semble aller dans le sens de Philippe Christel sur...
Donc c'est un bon article.
Oui, forcément.
Allez-y, Lucien.
Donc qui est intitulé effectivement à Katyn, la presse française la plus bête du monde, et qui évoque en fait le traitement médiatique le traitement médiatique de l'hommage du Premier ministre donc russe, Vladimir Poutine, à la mémoire, quelques jours avant donc le crash aérien, à la mémoire des martyrs de Katyn, donc, hein, en compagnie de son homologue polonais Donald Tusk. C'était le 7 avril. Et donc, Pascal Visconti écrit que l'exemple le plus caricatural dans cette cérémonie a été donné, donc, dans la retranscription de cette cérémonie, a été donné par le journaliste de La Croix, qui envoyait donc couvrir cet anniversaire, a voulu voir en Vladimir Poutine, donc, bien évidemment, je cite, la voix sévère et les yeux vides d'émotion. Et alors même que les journalistes polonais de la Gazeta Wyborska, qui sont pourtant très sourcillés sur la question, assez atlantistes, décrivaient eux un premier ministre russe, entre guillemets, visiblement ému, qui s'est agenouillé devant l'autel en faisant le signe de la croix, un geste important et courageux, fermez les guillemets. Et donc, on voit là le traitement tout à fait... je vous vois sourire.
Partial. Écoute, religieusement.
Ce qui est malheureux, c'est que c'est toujours en France que ça se passe.
Oui, parce que,
on devient plus royaliste que le roi, alors que les Polonais.
Ce qui est intéressant dans la gestion de cet événement, c'est que il faut, je crois, donner crédit aux Polonais que pas un responsable politique polonais n'est allé se vautrer, si j'ose dire, dans l'ignominie qui aurait été de laisser entendre qu'un éventuel attentat ou complot du FSB eût pu provoquer la catastrophe. Il y a eu une grande dignité, au-delà de l'Union nationale, une grande dignité dans la capacité à assumer la réalité de la catastrophe. Et le deuxième volet, c'est que effectivement, le geste de la Russie, avant même cette catastrophe, hein, puisque la première commémoration était donc celle du rôle de Vladimir Poutine. On sait que le deuxième geste a été celui où il a pris spontanément dans ses bras le Premier ministre polonais qui s'est rendu immédiatement sur les lieux de la catastrophe de Smolensk. Il y a eu véritablement là une volonté, puis une spontanéité de renouer quelque chose entre ces grands pays slaves. Ne nous leurrons pas, nous savons que les Russes savent faire de la politique, nous savons que les Russes savent jouer aux échecs, c'est une décision qui a été réfléchie, de la même manière que celle qui a été d'ouvrir les dernières archives est une décision qui a été réfléchie, de la même manière, et il faut le souligner, qu'a été mûrement réfléchie la décision de projeter, de diffuser le film Katyn de Vajda, qui est une charge démente, une charge énorme contre, enfin non, elle est pas démente, elle est violente, pardon, une charge violente contre la Russie de Staline. Eh bien, ce film,
Vajda, précisant quand même dans la presse russe, oui, à ce moment-là, qu'il n'a jamais voulu faire un film anti-russe, mais bien un film anti-soviétique, c'est ce qu'il, anti-communiste, c'est ce qu'il a toujours tenu à préciser.
Absolument, mais il n'en reste pas. Et d'ailleurs, c'est l'argument sur lequel Vladimir Poutine lui-même a rebondi en disant que, puisqu'on lui reproche de ne pas s'excuser, et donc il n'a pas excusé le peuple russe, puisque c'est le stalinisme et non pas la Russie. Et
exactement, il a eu un des... là, mais je reprends en fait son discours qui n'a pas été assez cité, me semble-t-il, qui est assez mouvant, puisqu'il indique que notre peuple, parlant donc, c'est Vladimir Poutine qui parle, notre peuple qui a subi les atrocités de la guerre civile, de la collectivisation forcée, des massacres des années 30, comprend parfaitement, et peut-être mieux que n'importe quel autre, ce que signifient pour tant de familles polonaises les noms de Katyn, Mednouye et Pityakak. Parce que la liste des lieux de martyrs compte aussi des sites d'exécution de masse de citoyens soviétiques. Les répressions ont broyé les gens sans distinction de nationalité, de conviction, de croyance religieuse.
Et il faut dire que le film a été diffusé, contrairement à ce que aussi raconte la presse française, a été correctement diffusé en Russie.
Très correctement diffusé en Russie, sur des chaînes d'ailleurs, sur des chaînes visibles par tout le monde, ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'elle n'a été diffusée que sur des chaînes payantes et cryptées.
Bon, pour finir,
allez-y, Christelle.
Quand on observe l'actualité, il faut avoir le sens de la convergence ou de la coïncidence. Les plus optimistes appellent ça des convergences. les mystiques appellent ça des signes immanents et les distraits appellent ça des coïncidences. Mais la commémoration de Katyn, hein, je ne parle pas de l'accident de Smolensk, mais la commémoration de Katyn, avec ce geste flagrant de sympathie au sens grec du terme et de volonté de renouer avec le frère slave émis par la Russie, intervient exactement le lendemain du dîner donné par Barack Obama au château de Prague après avoir signé l'opération de désarmement. Vous savez, Barack Obama réunit les chefs d'État d'Europe centrale, en gros pour leur dire, écoutez les gars, vous êtes bien gentils, mais enfin moi, entre l'Afghanistan, l'Iran et tout ça, je suis assez occupé, et donc je peux plus m'occuper de vous. Hein, donc je vous laisse aux bonnes mains de l'Europe qui saura vous... Mais en gros, ne comptez plus sur moi. Et le lendemain, comme par hasard, ce geste de renouvellement, de renaissance, de réouverture est organisé par la Russie. Je crois qu'il y a des clins d'œil qu'il faut savoir voir.
Merci Philippe Christel. On va passer maintenant à notre cette nouvelle rubrique. On va avoir au téléphone Louis de Gog qui va nous faire une petite revue de presse sur la chose militaire. Louis de Gog, est-ce que vous m'entendez ?
Absolument. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Bonsoir à vous. Vous allez commencer cette rubrique par quoi exactement ? On vous écoute.
Alors c'est très simple, je vais vous faire un petit tour de revue de la presse spécialisée dans le militaria. Donc pour cette première chronique dédiée aux choses de la guerre, j'ai décidé d'inviter nos auditeurs à me suivre chez le buraliste le plus proche.
Alors on vous suit, allez-y.
Merci, c'est que depuis quelques années, à côté des magazines de charme, des journaux féminins ou du rayon mots croisés, on assiste dans les magasins de la presse à un phénomène grandissant. Je veux parler de la prolifération des revues de fanamili, traduisées fanatiques du militaria. À ne pas confondre avec son collègue, le Warrior, qui lui dévore tout ce qui touche au conflit en cours, et plus encore les armements et matériels utilisés, que les opérations en elles-mêmes. Alors, on pourra juger anecdotique cette presse spécialisée, et pourtant, si nos peuples sont devenus aussi pacifiques qu'un moine bouddhiste sous respiration artificielle, au point de confier leur destin à d'autres qu'eux, la profusion de ces revues souligne combien, pour paraphraser le poète Tai Luk Nguyen, la nostalgie des Français pour les gloires militaires du passé est permanente. J'insiste là-dessus parce que nulle part chez nos voisins européens, on ne retrouve un tel engouement dans l'édition. Ceux qui, comme moi, s'ennuyèrent ferme au collège dans les années 80 se souviendront peut-être de cette revue hebdomadaire au titre emblématique « Troupes d'élite ». Co-dirigée par le regretté Jean Mabir, elle présentait l'intérêt de nous ouvrir, au-delà des grands classiques de la Seconde Guerre mondiale, à des conflits moins connus, la Rhodésie, l'Angola, la Malaisie ou le Liban.
Je vois qu'on a eu les mêmes lectures, parce que je crois que c'était aux éditions Atlas.
Exactement.
Exactement, oui, je m'en souviens très bien.
Exactement, aux éditions Atlas, et il faut le souligner, toujours servi par des plumes aux talents confirmés. Alors après, il y avait Militaria Magazine, très connu aussi, grâce à quoi, c'est sûr, comme en 70, pas un bouton de guêtre ne risquait de manquer aux uniformes des collectionneurs. Mais ça, c'était avant que les faux en provenance des pays de l'Est ne submergent le marché. Eh bien, Militaria Magazine existe toujours, contrairement à Troupes d'élite. La revue en est même à son 298e numéro, ce mois-ci, avec au programme l'équipement de la gendarmerie en 1914, ça ne s'invente pas, la tenue de jungle du soldat australien en 41, ou les accessoires du mythique fusil allemand Mauser. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi, vous devez la connaître, 3945 Magazine, qui est une autre vénérable publication, qui sort son 278e numéro en mai. Ce sont les éditions Heimdall. Pour 6 euros, c'est le prix moyen de ce genre de revue, le lecteur saura tout sur l'as américain aux 21 victoires Dominique Gentile, d'origine italienne, sur les uniformes de la Kriegsmarine, ou accessoirement sur François Mitterrand résistant. Je vous conseille aussi la série des champs de bataille, qui est peut-être le bimestriel qui occupe le plus de place chez les kiosquiers, avec pas moins de 4 publications différentes à chaque fois. Champs de bataille, champs de bataille thématique, champ de bataille Deuxième Guerre mondiale et champ de bataille Deuxième Guerre mondiale thématique. Je ne sais pas si vous me suivez.
Jusqu'ici, ça va, à peu près.
On n'a pas les images, mais non, je voulais m'assurer que l'exemplaire traitant de François Mitterrand résistant n'était pas trop lourd en pagination.
Ou alors que c'était peut-être de l'humour.
Eh bien, pas du tout, figurez-vous. Pas du tout. Vous regardez, il vous suffit d'aller dans une maison de la presse, vous regardez la couverture, et c'est un des gros titres de la couve. Vous avez
être exact, c'était la résistance de François Mitterrand.
Ah, la résistance, c'est, voilà. C'est, après, c'est une interprétation.
La résistance de François Mitterrand à la résistance, justement, jusqu'à quand il a résisté pour entrer dans la résistance, ça c'est autre chose. Je vous avoue que si ce numéro m'a intéressé, ce n'était absolument pas pour cet article. Alors, par contre, si ce mois-ci vous vous intéressez à ce qui s'est passé au Mexique...
Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone, mon cher Louis ?
Là, je suis collé dessus.
Voilà, c'est mieux. Ça on vous entend mieux.
Bon, parfait. Donc je disais que si le lecteur s'intéresse à ce qui s'est passé entre 1846 et 1848 au Mexique, ou sur les tenants et aboutissants de la guerre des Malouines, c'est la revue Champ de Bataille qui est faite pour lui. Si par contre c'est l'histoire de la cavalerie qui vous intéresse, avec ses grandes dates, son évolution dans le temps, alors c'est Champ de Bataille thématique qu'il vous faut. Les autres, ceux qui ne jurent que par la tactique des blindés de l'armée américaine de 40 à 45, se rabattront sur le dernier Champ de Bataille, Deuxième Guerre mondiale thématique. Et puis...
Louis de Gogh, ces revues, elles sortent tous les mois?
Alors c'est mensuel, bimestriel, trimestriel, mais vous pouvez être sûr, tous les mois, d'en avoir au moins 10 en kiosque. Et croyez-moi, j'ai pas fini encore, il y en a encore une petite litanie.
Allez-y.
Il y en a, oui, en moyenne, j'ai fait le décompte, il y a tout confondu une vingtaine de publications, chaque mois. Qui s'aligne dans les kiosques. Donc il y a aussi une autre revue qui s'appelle très poétiquement Axe et Alliés, sous-titrée 39-45 Un monde en guerre. C'est difficile de faire plus explicite. 20 numéros à l'heure actuelle sans les hors-série. Bon, plus Axe que Alliés à ce qu'il m'a semblé, mais bon, peut-être mon regard est-il biaisé. À noter dans cette revue toutefois un souci indéniable de la qualité d'écriture, comme l'atteste des dossiers signés de l'écrivain Jean-Jacques Langendorf. Une pointure. Et il y a aussi cette revue que j'aime bien, GBM, pour Histoire de guerre blindée et matérielle, qui est entièrement consacrée à l'armée française des deux guerres mondiales, et je dirais même à la réhabilitation de celle-ci en ce qui concerne 39-40. À souligner que nous sommes en mai 2010, donc il y a 70 ans, c'était la déferlante, le 10 mai, donc dans une semaine, c'était la déferlante des Panzers. Du coup, beaucoup de publications dans ce registre. Alors justement, autre publication, le Deuxième Guerre mondiale, aussi là un titre très clair, qui ce mois-ci consacre son dossier aux prémices de la guerre froide. Bon, lui, il a voulu faire un peu original. Une autre revue, Ligne de front, joli titre je trouve, consacre justement, avec un grand luxe d'illustration, ce qui est, je le souligne, une constante de ce genre de revue, son numéro à la Bataille de France, de mai-juin 40. Je passe sur tous les hors-séries. Last but not least, je terminerai ma revue de presse en citant mon coup de cœur du mois. Et généralement, d'ailleurs, c'est mon coup de cœur mensuel, presque.
Avant votre coup de cœur, j'aimerais vous rappeler que but not least n'est pas agréé sur Radio Courtoisie.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit, mais bon, en même temps, on peut pas traduire le nom d'une revue.
Non, c'est pas le nom de la revue, pardon.
C'est pas le nom de la revue.
Non, je suis désolé, Louis de Kog.
On voit que vous n'êtes pas anglophone, ça c'est un bon point.
Bon, je vous remercie. Alors attendez, parce que justement, la dernière revue, c'est TNT, autrement dit Trucks and Tanks.
Là, d'accord. Oui. En fait, j'avais anticipé sur la. Allez-y.
Oui, très bien, oui. Donc cette revue Trucks and Tanks, qui, si on oublie le dossier central qui est consacré à la bataille de Stalingrad, ça c'est un véritable marronnier, nous introduit dans le monde fascinant et aussi repoussant de laideur des chars japonais de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous donner une idée, on les croirait copiés sur les poissons aveugles des grands fonds marins. Je vais m'arrêter là, sachant que je n'ai pas fait le tour complet et que si je les achetais tous, je devrais déjà à mon buraliste la coquette somme de 60 euros. Donc voilà, c'était un petit tour de ce qui se fait ce mois-ci dans la presse militaire.
Eh ben écoutez, merci Louis de Gogh. Alors là, je suis épaté parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de revues militaires, ce qui me laisse quand même rêveur sur le fait que les gens achètent toutes ces revues. Enfin, je pense que c'est quand même aussi plus des revues d'histoire que simplement de revues militaires et des conflits en ce moment. Il y a rien. En fait, vous êtes toujours avec nous, Louis de Gogh ?
Bien sûr.
Il y a strictement aucun article sur ce qui se passe en Afghanistan, par exemple.
Si, mais là, nous ne sommes plus dans l'histoire militaire. Moi, je me suis cantonné vraiment à l'histoire militaire. je me suis cantonné, comme je disais, aux fanamili, hein, aux fanatiques du militariat. Il existe, ça c'est une autre tranche de revues. Là, il y a les revues que je vous ai citées, et encore, donc je n'ai pas été exhaustif, qui traitent d'histoire militaire, mais également beaucoup de tactique et de stratégie, ça je le précise, ce sont des revues très luxueuses et très pointues, faites vraiment par des historiens militaires. Quant aux revues dont vous me parlez, c'est une autre catégorie, généralement qui se trouve dans un autre rayonnage, et qui, elle, traite justement des conflits actuels, et qu'on retrouve souvent d'ailleurs accolés aux revues géopolitiques. Ce sont deux types de revues très différentes, et si on additionnait les deux, croyez-moi, on arriverait facilement à 30-35 revues en kiosque tous les mois.
Eh ben, vous nous ferez ça pour la prochaine fois, peut-être, non?
Ah ben, pourquoi pas, allez, c'est parti.
Alors, je vous signale qu'on ne rembourse aucune note de frais sur Radio Courtoisie, hein. Donc ça sera largement à vos frais. Écoutez, merci Louis de Gog de votre chronique. On vous laisse et on va faire juste une petite pause pendant quelques minutes de musique. Pour ceux qui ont écouté, parce que Philippe se demandait ce que c'était la musique un tout petit peu asiatique, c'est simplement la bande originale du film d'animation Mon voisin Totoro, du célèbre réalisateur japonais Hayao Miyazaki. C'est l'un des plus beaux films pour enfants. J'ai mis ça en hommage à ma fille qui adore ce dessin animé. Et puis comme je reviens du Japon, j'avais envie de rendre hommage à un grand pays et cette grande civilisation.
Il paraît que c'est le père de Miyazaki qui dessinait le design des chars japonais.
Ouais. Ouais, ouais. Non, mais ne rigolez pas. Le premier dessin animé de Miyazaki, c'est sur une histoire de Panzer. Si vous ne le saviez pas. Donc ouais, voilà, c'était parce que j'ai fait un petit voyage au Japon. J'avais envie de rendre hommage à cette grande civilisation, ce qui prouve que les chroniques de la vieille Europe ne sont pas sectaires et qu'on peut apprécier aussi d'autres pays que l'Europe. Petite pause maintenant. Dernière partie des chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors, nous allons passer maintenant à l'actualité européenne. Aujourd'hui, Philippe Christel, on peut dire qu'on vous a beaucoup entendu pendant cette émission, mais ce sera avec un grand plaisir qu'on va encore vous écouter pour voir ce que vous avez retenu. Je crois que vous allez commencer par l'Ukraine qui fait du troc.
Oui, l'Ukraine, nous savons maintenant que depuis, nous cherchions quelles allaient être les premières mesures de la nouvelle majorité élue en Ukraine, hein, vous savez, depuis l'élection du président Yanukovych et la relégation en troisième division de l'ex-président Yushchenko, la question était toujours la même, Moscou ou Bruxelles, Bruxelles ou Moscou, à un moment il faudra choisir. Eh bien, toutes les images ont fait à peu près la une de toutes les télévisions, puisque la scène était effectivement assez grotesque, mais les députés ukrainiens ont ratifié, dans le chaos certes, mais ils ont ratifié à la Rada, puisque la Chambre des députés ukrainienne s'appelle la Rada. Ils ont ratifié à la Rada le maintien de la flotte russe en Crimée. Je rappelle à nos auditeurs que depuis un certain temps, nous savons que un des objectifs avérés de la révolution orange était certes décrocher l'Ukraine de la Russie, ou en tout cas créer un obstacle supplémentaire entre la Russie et l'Europe, miser sur un partenaire qui avait toute vocation à se déclarer atlantiste, qui cherchait à adhérer à l'OTAN, et puis surtout il y avait l'occasion était trop belle pour chasser les Russes de mer Noire et donc de leur fameux débouché aux mers chaudes, objet de géopolitique russe depuis un certain nombre de siècles. L'enjeu, c'était évidemment le maintien de la flotte russe à Sébastopol. La flotte russe disposait d'un bail qui courait jusqu'en 2017. Et à l'issue de ce bail, eh bien, la flotte russe risquait de devoir quitter non seulement la base, mais également la région de la Crimée, qui est une région totalement peuplée de Russes et de russophones, et qui avait été, au nom des caprices des nationalités de l'époque, attribuée par Khrouchtchev à l'Ukraine. Eh bien, le 27 avril dernier, par 236 voix sur 450, les parlementaires ukrainiens ont voté la reconduction et la prolongation pour 30 années supplémentaires de ce bail. C'est-à-dire que, voilà, un nouveau recul de l'influence américaine, l'Ukraine s'arrime désormais définitivement à côté de son voisin russe. La révolution orange ayant été un échec, l'élection du président Yanukovych ayant été acquise, eh bien, les premiers signes très forts de du réalignement logique de l'Ukraine sont arrivés avec cette décision. Alors bien évidemment, ça n'a pas été sans bruit, puisque à la Rada, il y a encore des députés qui avaient été élus avec le bloc atlantiste de la Révolution Orange. La question reste posée de l'Ukraine souhaitera-t-elle obtenir un accord d'association et une zone de libre-échange avec l'Union européenne, un projet dont on dit qu'elle le préférerait à celui de la fameuse union douanière Russie-Ukraine-Kazakhstan proposée par Moscou. De la même manière, on laisse planer l'idée d'une éventuelle candidature à l'Union européenne. Il est à peu près certain maintenant, quand on voit la situation très préoccupante des finances grecques, mais aussi portugaises, espagnoles, irlandaises et britanniques, il est fortement probable qu'une ce type d'association avec l'Ukraine ait du plomb dans l'aile pour un certain temps. Et voici donc, en tout cas, après une dizaine d'années de chaos, la fin des tentatives américaines pour circonvenir l'Ukraine et l'éloigner de son partenariat traditionnel et privilégié.
J'avoue que il y a eu un silence total sur cette affaire de la part de Washington. On les entend plus.
Absolument, mais c'est dans la droite ligne de ce que j'ai écrit tout à l'heure sur le dîner de Prague. Barack Obama est le président américain pour lequel l'Europe est secondaire. Je crois que comme tout dirigeant, il est obligé de faire des priorités tactiques et stratégiques dans les choix et dans les efforts qu'il doit porter. Il suffit d'ouvrir ses journaux pour constater la difficulté du front intérieur pour Barack Obama. Et quant au front extérieur, il reste là aussi largement préoccupant entre la lutte économique avec la Chine, entre la question afghane, entre la difficile stabilisation de l'Irak, et puis bien évidemment la question iranienne avec les velléités israéliennes que l'on connaît et la nécessité pour les États-Unis de trouver la bonne solution en temporisant, sans temporiser, etc., etc. À l'évidence, le choix de reconstruire quelque chose avec la Russie et la relative sécurité de la zone Europe en fait une zone de décroissance d'intensité pour les Américains, et on ne peut que s'en féliciter, mais on doit le comprendre. Le deuxième sujet qui a pu particulièrement embêter les Américains, on l'a suivi aussi, c'est la fameuse révolution de palais ou révolution au Kyrgyzstan. Alors, Kyrgyzstan, c'est un pays...
Rappelez un peu aux auditeurs, parce que là,
est un pays d'Europe centrale,
peu connu,
dont la capitale est Bishkek. Le Kyrgyzstan fait partie, bien évidemment, de ces pays issus de l'ex-CEI, de l'ex-Union URSS et aujourd'hui dans la CEI. Et le Kyrgyzstan est un pays peuplé, on va dire, aux deux tiers d'Asiates et avec un tiers d'une minorité musulmane relativement, tranquille. La Kirghizie est un pays important puisque c'est le pays dans lequel les États-Unis ont implanté la fameuse base de Manas, qui est près de la capitale, base à travers laquelle l'ensemble du transit logistique et humain vers l'Afghanistan est réalisé. Et donc, le Kyrgyzstan est le pays stratégique en Europe centrale qui permet aux États-Unis de rayonner sur la région et surtout d'approvisionner en hommes et en matériel leurs troupes en Afghanistan. Et donc, tout a commencé avec la bagarre que nous avions déjà relatée il y a quelque temps, lorsque l'année dernière, le président kirghize, M. Bakiev, avait largement fait monter les enchères pour menacer les États-Unis de fermer cette base de Manas. Je rappelle que les Russes tiennent également dans le pays une base aérienne. Et puis, finalement, les Russes avaient été accusés d'être derrière ce retournement du président Bakiev. Et puis, on se rend compte que, finalement, le président Bakiev revient en arrière. Et puis, moyennant le triplement du loyer de cette base, qui est passé de 18 à 60 millions de dollars, eh bien, le président Bakiev a conservé cette base. Et puis, vous l'avez vu, le 7 avril, donc une révolution dans la rue a fait chuter le gouvernement, ou plutôt la famille Bakiev. Donc le gouvernement provisoire a été installé, à sa tête l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a fait ses études à Moscou. Dès le 8 avril, Moscou a reconnu le gouvernement provisoire. On soupçonne bien évidemment Moscou d'avoir aidé largement à renverser le président Bakiev. Alors, quels sont les soupçons, les symptômes, les indices? Bah, d'abord, c'est que les experts de tout manipulation de foule nous disent que la soudaineté de la révolte, comme son extension dans l'ensemble du pays et la capitale, tout ceci, ça dénote la patte d'un service spécial. Les distributions avérées de vodka aux émeutiers, l'utilisation immédiate d'armes et de munitions témoignent également d'une organisation minutieuse des événements. Ce qui serait assez drôle, puisqu'en fait, on soupçonne les Russes d'avoir mené en territoire américanophile l'équivalent d'une révolution orange, si j'ose dire. Et ce qui est d'autant plus rigolo, si j'ose dire, c'est que le président Bakiev, donc suppôt des Américains, comme on dit, est au pouvoir aujourd'hui parce que il y a été porté par la fameuse révolution des tulipes, qui avait été, elle aussi, instrumentalisée par Washington pour remplacer un satrape soviétoïde par ce nouveau président Bakiev. Ce qui est intéressant, c'est que on sait que dès 2009, après le renoncement par le président Bakiev à sortir les Américains de la base de Manas, le Kremlin a freiné l'octroi de crédit au gouvernement kirghize, a suspendu toute aide début 2010, conséquence de quoi les autorités gouvernementales ont été contraintes de fortement augmenter les tarifs du gaz, de l'électricité, d'un certain nombre de denrées de première nécessité, et c'est ceci qui a mis le feu aux poudres. Maintenant que le nouveau gouvernement est en place, le nouvel gouvernement a pris deux décisions. Premièrement, rassurer Washington en disant qu'on ne remettrait pas en cause les accords passés avec le président déchu et qu'on prolongeait d'un an le bail de la base de Manas, mais surtout engager un certain nombre d'enquêtes, puisque ce que l'on reproche principalement à la famille du président Bakiev, c'est un enrichissement personnel élevé. Et d'où vient cet enrichissement personnel élevé? Eh bien, vient du fait que le fils du chef de l'État, Maxime, est en charge de l'approvisionnement et des livraisons de carburant à la base de Manas, livraison et carburant, facturés aux États-Unis, réglés en dollars, sans perception de droits de douane. Et en fait, on se rend compte qu'en 5 ans, ce sont près de 2 millions de tonnes de carburant, avec les recettes correspondantes, qui ont été encaissées directement par la famille du président Bakiev, et pour des raisons, avec nécessairement la complicité des autorités américaines. Aujourd'hui, la gestion des États-Unis au Kyrgyzstan est largement critiquée, y compris d'ailleurs par les sénateurs américains, puisque l'ambassade américaine à Bishkek fait l'objet de vives critiques, des auditions à la Chambre des représentants, la sous-commission à la sécurité nationale, et le compte-rendu des travaux vient de tomber, à savoir que la gestion est considérée comme catastrophique parce que nous avons aujourd'hui la démonstration que les États-Unis ont essayé de satisfaire un dictateur Voilà donc des éléments assez difficiles pour envisager une pérennité sereine des liens entre Washington et le Kyrgyzstan et donc la fameuse base de Manas. Voilà donc visiblement un moyen de pression supplémentaire sur le grand échiquier de l'Asie centrale que, à distance, le Kremlin semble devoir pouvoir armer contre l'ingérence américaine.
Très bien. Nous partons où ?
Ouais, je pense qu'il est intéressant de nous allons regarder évidemment de manière très attentive les élections qui ont lieu après-demain. Après-demain, je rappelle.
Vous parlez des élections
bien
anglaises.
Évidemment, les élections anglaises qui vont mettre aux prises les travaillistes sortants avec leurs compétiteurs conservateurs ou libéraux. Pourquoi c'est intéressant ? Plein de sujets intéressants, bien évidemment. Les conséquences sur la manière dont Londres va regarder la politique européenne devront être surveillées. Et surtout, je voudrais dans un premier temps envisager la question de la défense nationale. Tous les programmes des compétiteurs anglais le disent, les libéraux-démocrates étant les plus extrémistes en la matière, nous sommes, s'agissant de la défense anglaise, au mieux sur une perspective de réduction de 15% des crédits des armées d'ici à 2016, au pire, si les libéraux-démocrates emportent ces élections, ce qui reste quand même le cas le moins probable, sur une décision qui est prise de ne pas renouveler, entretenir ni renouveler la force de dissuasion britannique. Un des éléments qui menace aujourd'hui la défense britannique, c'est un peu ce que nous avons connu nous, mais sans aller jusque-là, c'est la disparition de sa force de dissuasion autonome. Je mets tout de suite plein de guillemets. Nous savons tous
que tu étais déjà plus très autonome.
Voilà, nous savons tous que la Grande-Bretagne a accepté depuis 1962 de soumettre l'emploi de sa force nucléaire à l'accord des Américains, ce qu'on appelle le principe de la double clé, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la planète, il n'y a que trois réelles puissances militaires nucléaires indépendantes, les Américains, les Russes et les Français, cocorico. Les Chinois et les autres puissances nucléaires étant à des niveaux de technologie nucléaire qui ne sont pas comparables. Donc ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, la défense britannique, c'est un budget de 52 milliards d'euros de budget. C'est relié à la France, ce sont deux pays qui possèdent une industrie d'armement qui est importante, qui est efficace, qui est performante. La France et l'Allemagne pèsent ensemble 50% des achats d'armement et 60% des budgets de recherche militaire de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et donc, cette défense britannique s'attend donc à des révisions majeures. Le conservateur Liam Fox, qui est secrétaire à la défense du Shadow Cabinet, là, je parle anglais, mais c'est normal. Hein.
Bon. C'est normal, on parle des anglais,
Liam Fox l'a dit.
Enfin, vous pouvez peut-être dire ce que c'est que le Shadow Cabinet pour
le Shadow Cabinet, c'est ce qu'on appelle le gouvernement fantôme, qui est le poste pour poste, les ministres qui sont appelés à prendre la place des sortants s'ils gagnent les élections. Ce qui permet une professionnalisation du personnel politique secteur par secteur et qui évite d'avoir, comme à la française, une espèce de gigantesque loterie où au lendemain de l'élection, ouais, N'importe quelle demeurée peut se retrouver propulsée à un poste ultra technique. Fermez la parenthèse.
Mais c'est pour ça que les conseillers existent en France.
Ouais, c'est pour ça qu'ils sont 50 par cabinet ministériel.
Voilà.
Donc, Liam Fox l'a dit, la revue stratégique du pays qui fixera ses visions des menaces, ses alliances, les moyens de sécurité sera réalisé dans le contexte financier le plus défavorable depuis des décennies. Aujourd'hui, les programmes d'équipement engagés sont sous-financés à hauteur de 39 milliards d'euros sur un budget de 52 millions. La perspective, je l'ai dit, c'est une réduction de 15% des crédits. On imagine 30 000 personnels en moins sur 168 000, 20% de navires, aéronefs et unités au sol en moins, à tel point que l'amiral Stanhope, qui est le First Sea of Lord, non, First Sea Lord, pardon, je m'attendais à Lord of Sea, mais First Sea Lord, nous a averti en novembre 2008 que la dissuasion britannique ne serait plus garantie si, comme l'envisageaient les travaillistes, le gouvernement ne renouvelait que 3 de ses 4 sous-marins nucléaires Trident. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on sait que l'Europe de la défense a été certes une avancée franco-beneluxienne, si j'ose dire, mais elle a été aussi initiée lors du fameux sommet de Saint-Malo en 1998, lorsque Chirac et Blair ont appelé ensemble à doter l'Union européenne d'une capacité autonome d'action appuyée par des forces militaires crédibles. Depuis, la Grande-Bretagne n'a pas vraiment souhaité rentrer dans le jeu. Elle n'a participé qu'à 3 opérations européennes sur 21. Elle a participé à l'opération Althea en Bosnie, à l'opération Eulex en Irak. Enfin, Eulex, je rappelle que c'est de la formation de magistrats, donc c'est lointainement du militaire. Et en revanche, elle participe à l'opération Atalante contre la piraterie somalienne, puisque c'est elle qui commande le dispositif, sans d'ailleurs y avoir donné de moyens navals. Aujourd'hui, l'Angleterre s'oppose toujours aux fameuses créations d'un centre de planification et de conduite des opérations de l'UE de l'Union européenne, création qui est souhaitée par la France, l'Allemagne ou la Pologne. Et l'Angleterre menace toujours de sortir de l'Agence européenne de la défense, dont elle a pris la tête avec le secrétariat général, qui est une agence normalement conçue pour mener les programmes d'armement commun. Et donc, ce qu'on attend avec à la fois une impatience, mais une impatience assez dissimulée parfois, c'est dans quelle mesure la réduction des budgets, des crédits, des politiques de recherche, voire des systèmes de défense britanniques, peut appeler l'Angleterre à rapprocher son dispositif des dispositifs français et pour développer une coopération militaire beaucoup plus importante. On a même entendu le député conservateur Malcolm Rifkind, qui lui-même était secrétaire à la défense puis aux affaires étrangères dans les gouvernements de John Major. Il a appelé à une nouvelle entente cordiale 100 ans après la première. Je ne suis pas certain que ça fasse plaisir à l'establishment, comme on dit, tant britannique que français. Ça peut être une bonne nouvelle pour les industries de défense. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place des amiraux britanniques. Voilà une fois de plus une traduction du fait que les budgets qui explosent, les déficits budgétaires qui explosent, se traduisent directement par des pertes ou des menaces sur la souveraineté.
Juste pour une précision, ces pertes de budget militaire, que ça soit David Cameron ou Gordon Brown qui gagnent les élections, on sera exactement dans le même cas.
Alors, pas exactement, parce que les conservateurs annoncent, si vous voulez, cette réduction très claire de 15% des crédits. En revanche, ils disent qu'ils ne toucheront pas à la capacité de dissuasion. Les travaillistes jonglent bizarrement en expliquant qu'éventuellement, ils ne renouvelleraient que 3 des 4 sous-marins nucléaires. Ce qui ne permet pas d'accorder une dissuasion totale, puisqu'il en faut en permanence 2x2. Enfin, nous, on travaille bien avec un porte-avions tout seul, donc il sert plus quand il est en réparation. Et quant aux libéraux-démocrates, c'est plus simple, c'est eux, ils veulent renouveler aucun des 4 sous-marins Trident. Hein, donc les conservateurs, au mieux, les conservateurs vont faire subir à l'armée anglaise une cure d'amaigrissement, comme nous, on a connu avec la révolution générale des politiques publiques. Et donc, principalement, j'imagine, réduction des capacités de projection britanniques.
Bah écoutez, on va voir ça pendant ces élections. Il y a quand même beaucoup de chances que David Cameron soit élu, d'après les derniers sondages. Et ça sera intéressant de le voir arriver au G20, hein. Ça va être sa première grande réunion. Autre chose,
oui,
mon cher Philippe.
Quelques éléments. Nous avions parlé dans, je ne sais plus si c'est cette l'émission précédente ou celle d'encore avant, des élections régionales italiennes qui avaient couronné de succès la Ligue du Nord. Et nous avions dit, ben voilà, la Ligue du Nord vient de renforcer son poids dans la majorité de Silvio Berlusconi. Il est à imaginer que la Ligue du Nord demande davantage de mesures à destination de ses électeurs et en lien avec son programme. Eh bien voilà 3 exemples d'amendements législatifs qui viennent d'être portés par la Ligue du Nord au Parlement italien. Et ceci pour illustrer le fait que il y a, je sais que certains auditeurs n'aiment pas quand on parle comme ça, mais il y a des pays dans lesquels une droite nationale efficace à 12 ou 13% sur le plan national a une efficacité réelle. Ça existe. Ce n'est pas notre cas, je le déplore, je souhaiterais qu'il en fût autrement, mais je vais donner trois exemples supplémentaires, puisque ce n'est pas la première fois qu'on parle des acquis et des résultats de la Ligue du Nord.
Philippe, vous allez fâcher.
Oui, mais je suis sûr que j'en fasse qui sont déjà fâchés.
Allez-y, donc, Philippe, ici, il n'y a pas de...
Trois choses. Premièrement, un amendement qui vient d'enjoindre aux enseignes de magasins aux langues incompréhensibles, c'est le texte de la loi, aux langues incompréhensibles par l'italien lambda.
J'ai toujours aimé. Donc, la subtilité
le
italienne.
Chinois ou l'arabe principalement, ces enseignes seront interdites. Les magasins, les enseignes devront désormais respecter la langue italienne, voire lombarde, napolitaine, vénitien ou sicilien. Mais il est indispensable que le magasin, l'enseigne du magasin, soit rédigée dans une langue qui soit l'italien. Éventuellement, les régions pourront rajouter l'autorisation d'emploi d'un patois local ou de l'une des langues de l'Union européenne, cette disposition visant spécifiquement le Tyrol du Sud, puisqu'on peut imaginer, bien évidemment, qu'un certain nombre de magasins soient leur enseigne libellée en allemand. Deuxième disposition, il s'agit maintenant d'obtenir que, une fois entrés dans un magasin dont ils auront compris l'enseigne, eh bien, les clients soient compris. Et donc, pour qu'un client soit compris, il faut donc imposer aux étrangers issus de pays extra-européens qui veulent ouvrir un magasin un certificat qui confirme leur connaissance de la langue italienne. Et là, c'est le côté bucolique de la Ligue du Nord, pour des raisons qui sont simples, c'est que il faut bien évidemment que le commerçant puisse être en mesure d'appliquer les normes sanitaires, d'une part, qui sont jusqu'à preuve du contraire écrites en italien et pas en chinois, mais de la même manière, de prêter assistance à leurs clients. Enfin, que faire quand un vendeur de t-shirts sri-lankais voit arriver dans sa boutique une mamma qui fait un malaise vagal, et comment s'expliquer, comment lui prêter assistance? Donc voilà, la Ligue du Nord a effectivement obtenu au Parlement que ces deux événements soient possibles. Et troisième amendement, c'est là cette fois-ci, c'est un amendement directement contributif de la pluralité, la diversité linguistique revendiquée par la Ligue du Nord. Eh bien, le ministre de l'Instruction, Maria Stella Gelmini, qui est une proche de Silvio Berlusconi, qui est une proche géographique, qui est une proche politique, vient d'accepter le principe, demandé par la Ligue, que les professeurs soient issus de la région où ils enseignent et qu'ils prêtent une attention particulière aux patois locaux. On n'est donc pas dans l'enseignement obligatoire de la langue régionale, mais on est bien, là encore, à une logique qui est rapprocher le territoire, le professeur du territoire duquel il est issu, et donc, en conséquence, lui permettre de laisser sa place au patois local.
Bah, très bien. J'ai appris qu'il y a une femme qui s'est pris une amende en Italie parce qu'elle portait la burqa. Ce qui fait qu'il y a des pays qui ont déjà interdit la burqa, voilà.
Ah bah, vous avez vu que bon, la Belgique l'a interdit, et puis qu'un député libéral allemand vient de demander au Parlement européen que le Parlement européen interdise la dite burqa sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Très bien. Autre chose.
Juste pour vous signaler la pagaille que nous avons vue s'installer à la CDU au sujet de l'immigré modèle que nous avons, qui a été promu ministre. Donc ça, c'est très drôle, puisque
l'histoire est très drôle.
La CDU, je rappelle aux auditeurs que la CDU, c'est l'Union chrétienne démocrate, hein, et que la CDU est l'allié de ce qu'on appelle la CSU, qui est l'émanation de la CDU en Bavière, qui est le pays le plus catholique d'Allemagne, l'Union sociale chrétienne, qui est un petit peu plus catholique et un petit peu plus à droite que la CDU. Et donc, la CDU a décidé de faire un coup pas possible, comme tout bon parti politique de droite qui veut essayer de faire avant la gauche ce que la gauche rêve de faire. La CDU a confié à une jeune femme, tout à fait bien de sa personne, qui s'appelle Aygül Özkan, qui est une immigrée modèle, on lui a confié le ministère des Affaires sociales de la région de Basse-Saxe. joli coup politique, salué par la Turquie, ce qui était quand même l'opération, quand la Turquie salue l'Allemagne, alors là, le politicien ne sait plus où se mettre de bonne heure, et puis salué par la classe politique allemande à l'unanimité, l'attribution d'un portefeuille à une femme d'origine turque devait donner l'image d'un parti conservateur moderne, ouvert et tolérant. Parce qu'aujourd'hui, il faut être moderne, ouvert et tolérant, ou alors tolérant, ouvert et moderne. C'est au choix. Mais ça, c'est très important.
Oui, c'est bien, on peut le faire dans l'autre sens aussi.
Et alors, bien évidemment, notre jeune et distinguée ministre, qui pratique un islam tout à fait modéré, nous dit-on, elle pratique l'islam avec modération. C'est comme les pubs pour le pastis, il y a l'islam avec modération. Eh bien, les premières déclarations sont tout à fait comme souhaité. J'ai choisi la CDU parce que ce parti est celui qui porte les valeurs auxquelles je m'identifie le plus, la famille, la solidarité et l'amour de son prochain. Et puis, la CDU est un parti ouvert, pas besoin d'être le Christ pour y entrer. Déjà, c'est un humour, ça doit être de l'humour turc, c'est de l'humour qu'on comprend pas bien, mais pourquoi pas. Patatras, qu'est-ce qui se passe? La veille de son intronisation, le ministre de 38 ans déclare, bah, j'ai bien réfléchi, mais le voile et le crucifix n'ont pas leur place dans les salles de classe, parce que l'école devrait être un endroit neutre. Patatras, voici notre ministre qui vient bafouer un des principes fondateurs de la CDU, et bien évidemment, le responsable de la CDU aux questions d'immigration, le responsable de la CSU aux questions d'intégration, lui a évidemment jugé les paroles de sa collègue particulièrement aberrantes, c'en est effrayant, et surtout, il dit, des responsables politiques qui voudraient bannir les crucifix des écoles devraient se demander s'ils ont vraiment la place dans un parti chrétien-démocrate. Donc une bonne observation. Et pour lui, la conclusion a sonné. L'expérience consistant à faire d'une femme musulmane une ministre de la CDU semble avoir échoué avant même d'avoir débuté. Fin de citation. Et je crois qu'on pourra être d'accord avec monsieur Stéphane Müller.
Bon, c'est bien. Alors, ils n'auront pas leur Rachida Tati dans leur parti. Bah, écoutez, c'est fini. Merci à vous, Philippe Christel. Merci aussi, Lucien Valdès. Fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur le site vieilleurope.fr ou la réécouter jeudi soir. Bonne soirée à tous, bien sûr, sur Radio Courtoisie. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble.